Vous êtes sur RTL.
Là, c'est l'info tout de suite, RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue donc dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Ce soir à la une, pas de panique, pour l'instant en tout cas. C'est le message du conseil scientifique face au nouveau variant Omicron. On va tout vous expliquer dans un instant. On va également s'interroger sur le protocole sanitaire à l'école. Terminé les fermetures de classes systématiques depuis ce matin. Est-ce vraiment judicieux? Plus d'un enfant sur 200 est malade du Covid à l'école primaire. La brigade RTL va nous aider à y voir plus clair. Les autres titres de l'actualité maintenant, à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Ce variant Omicron qui suscite l'inquiétude des professionnels du tourisme. Avec lui, Français et étrangers auront-ils encore envie de voyager? Rien n'est moins sûr. Dans ce journal aussi, les réquisitions un peu moins lourdes qu'en première instance dans le procès en appel de François Fillon et son épouse. La semaine décisive d'Éric Zemmour en pleine tempête. Et le Ballon d'Or, le lauréat désigné ce soir, et peut-être déjà quelques indices. Pour ça, on parlera chiffon, costume, notamment. Les courses dans le Quintet Plus à Vincennes, il fallait jouer le 12, le 2, le 9, le 16 et le 8.
Dans un quart d'heure, Laurent Voulzy sera notre invité de 18h15. Le chanteur a milité pour l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. La cérémonie se tiendra demain. 18h30, les dessous de l'actu, les dessous du Ballon d'Or, justement, donc décerné ce soir. 18h40, on défait le monde. Les 20 minutes de curiosité avec Cyprien Signé à la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le menu?
Ce soir, on vous parle d'un enjeu essentiel dans la lutte contre le Covid, le séquençage. Comment ça marche? Qui fait quoi? Comment débusquer les variants? Vous allez tout comprendre. Vous apprendrez aussi pourquoi Omicron s'appelle Omicron, pourquoi le doigt d'honneur s'appelle le doigt d'honneur et pourquoi le Sénégal devient le nouveau pays du vin.
19h15, on va refaire le monde, débattre autour d'Éric Brunet, débattre notamment des fermetures de frontières en cascade. Est-ce la solution? Et puis, des points tout au long de l'émission sur la météo avec vous. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Julien.
La tendance?
Demain, retour d'un temps sec et ensoleillé dans la moitié sud, plus de nuages dans la moitié nord et encore quelques averses sous forme de pluie ou de neige dans le nord-est.
Un détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Autriche, Espagne, Portugal, de nouveaux cas confirmés du variant Omicron en Europe. Le G7 demande aujourd'hui une action urgente.
Et face à l'inquiétude, le conseil scientifique en France est sorti de sa réserve habituelle. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Vous êtes la spécialiste santé de RTL. Rare conférence de presse ce matin des représentants de cette assemblée qui conseille le gouvernement. Le message en substance, c'est ne cédons pas à la panique.
Oui, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de spéculations sur ce nouveau variant, mais très peu de certitudes. Sur sa transmissibilité d'abord, est-il plus contagieux que le Delta? L'Afrique du Sud fait état d'une explosion de cas, 10 000 par jour. C'est inquiétant, c'est vrai, mais les experts insistent sur des éléments locaux. Un taux très faible de vaccination, un quart seulement de la population, ce qui la rend plus vulnérable à l'infection. En France, 75% de la population est vaccinée et surtout, le variant Delta, contrairement à l'Afrique du Sud, il est totalement dominant. Il n'est donc pas du tout certain qu'Omicron parvienne à s'imposer. Concernant l'hypothèse d'une moindre résistance au vaccin, on n'en sait rien pour l'instant. Il faut attendre 2 ou 3 semaines pour avoir des informations sur la capacité de l'organisme humain à fabriquer des anticorps contre ce variant.
En attendant, Odile, pour le conseil scientifique, l'apparition de ce variant ne fait que rappeler l'importance des mesures déjà mises en place.
Oui, il faut maintenir le fameux tester, alerter, protéger, poursuivre une vaccination très large avec cette campagne de rappel, notamment insiste le conseil scientifique chez les plus de 50 ans et les plus fragiles, et continuer à respecter les gestes barrières, le port du masque notamment. C'est ce qui est très utile dans la lutte contre Delta, c'est ce qui le sera certainement contre Omicron.
Les explications d'Odile Pouget pour RTL.
Et l'importance de cette dose de rappel, elle a été soulignée aussi aujourd'hui au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui se disent en état d'alerte avancée. L'Organisation mondiale de la santé a pointé ce lundi un risque très élevé de voir le variant se répandre au niveau mondial. Certains pays ont donc reporté leur réouverture, comme l'Australie ou les Philippines.
Et donc, à quelques semaines des vacances de Noël, le secteur du tourisme s'interroge. Est-ce que ce nouveau variant va compromettre la reprise des derniers mois? Pierre Arbulot, vous avez discuté pour RTL avec des professionnels circonspects.
Oui, et pourtant, les voyants étaient tous au vert, hein, la semaine dernière encore, de belles réservations pour les vacances de Noël et un simple port du masque pour les remontées mécaniques des stations de ski. Et paf, une mise en garde du ministre de la Santé sur de potentielles nouvelles restrictions et un nouveau variant dans la foulée. Didier Arino est le président de ProTourisme.
La situation est mouvante, incertaine, dangereuse, du fait d'une plus grande contagiosité. Aussi, l'effet du vaccin était limité sur ce variant. Pour l'instant, c'est l'inconnu pour les acteurs du tourisme.
Même attente, même inquiétude pour Richard Venopoulos du tour opérateur Tourcom. Les voyages à l'étranger, c'est 80% de son chiffre d'affaires. Alors les fermetures de frontières lui font peur. Il s'agace. On ne connaît pourtant pas encore la dangerosité de ce nouveau variant.
Je pense qu'il y a une panique dans les gouvernements, plus personne n'ose prendre de responsabilité. S'il n'y a pas de tourisme, ça sera catastrophique. Alors autant donner des messages clairs, précis, avec des informations précises, et ne pas parler comme ça aujourd'hui en disant on a un variant dangereux, mais on ne sait pas.
Alors la seule chose positive, c'est finalement que ces professionnels savent gérer ce genre de situation, on va dire, mouvante, après 20 mois de pandémie.
Oui, on a appris désormais, précision signée Pierre Herbulot, et alors que les interdictions de voyage se multiplient au départ, et en direction de l'Afrique australe. Le patron de l'ONU se dit préoccupé, soulignant que le niveau anormalement bas de vaccins disponibles en Afrique est le principal problème.
Bon, Omicron est sur toutes les lèvres, mais la cinquième vague du Covid version Delta, elle est déjà là, avec des indicateurs qui grimpent en flèche dans certains départements.
Comme en Ardèche, plus de 500 cas pour 100 000 habitants dans la population générale. C'est même près de 3 fois plus pour les 6-10 ans. Frédéric Perruche, vous vous êtes rendu dans une école d'Annonay dans le nord du département où deux classes sont donc encore fermées.
Oui, deux classes de CE1 fermées depuis une semaine qui s'ajoutent à une troisième il y a un mois, ce qui interpelle et inquiète le directeur de l'école Thierry Vigne du syndicat UNSA.
Ça monte, c'est ce que les parents nous disent. Avant, on avait cette impression qu'on n'avait pas de cas dans la famille, on ne connaissait pas de cas contact ou de cas positifs. Là, les parents voient où sont les cas. L'épidémie se rapproche.
Trois classes fermées depuis un mois pour cause de Covid, qui pourrait s'expliquer par un faible taux de participation des parents.
J'ai été cas contact, j'ai eu la Covid à un moment aussi, mais c'est pas ce qui va pour l'instant, en tous les cas, m'influer.
Pourquoi ?
Pas assez de recul.
Vous n'avez pas confiance, autrement dit ?
Pas du tout.
Nous, les Ardéchois, la vaccination, on ne connaît pas. Nous, c'est la campagne, c'est... voilà. Puis tous mes amis, c'est non. Donc, en fait, il y a une vague de non qui est installée ici. Et du coup, on ne veut pas se vacciner. Là.
Un taux de vaccination parmi les plus bas de France, mais qui pourrait remonter car les centres de l'Ardèche affichent de nouveau complet depuis le week-end dernier.
Voilà, quatre parents rencontrés, quatre parents non vaccinés. Reportage signé Frédéric Perruche à Annonay, en Ardèche.
RTL, 18h07. Dans l'actualité également aujourd'hui, les réquisitions dans le procès en appel de François Fillon pour les emplois présumés fictifs de son épouse.
5 ans de prison, dont un ferme avec bracelet électronique demandé à l'encontre de l'ancien Premier ministre. 2 ans avec sursis contre Pénélope Fillon. 3 ans avec sursis contre le suppléant de François Fillon. Anne Le Hénaff, c'est un peu moins qu'en première instance.
Oui, même si les mots n'ont pas été plus doux à l'encontre des trois prévenus. Pour les procureurs du parquet financier, François Fillon a été à l'initiative de cette entreprise d'appropriation des crédits collaborateurs alors qu'il était parlementaire. Sa femme, Pénélope, en a été l'instrument, mais l'instrument consentant. Même chose pour son suppléant, Marc Joulot. Elle a été payée pendant des années au niveau maximal autorisé comme attachée parlementaire. Ce qui en soi n'est pas illégal, mais seulement voilà, aucune trace de ce travail n'a été retrouvé, mais il n'est pas d'archivage possible sans archives, ironise l'un des deux procureurs. Elle était tellement éloignée de son travail qu'elle n'a même pas su combien le suppléant de François Fillon la rémunérait, ni qu'elle avait été augmentée. Son embauche à la Revue des Deux Mondes était aussi un contrat de complaisance pour plaire à François Fillon. Et les contrats accordés à deux des enfants de François Fillon, c'était aussi pour détourner de l'argent public, accusent les deux procureurs au fil d'un réquisitoire de plus de 4 heures. François Fillon a pris des notes, a plusieurs fois fait non de la tête, levé les yeux au ciel, exaspéré. Pénélope Fillon, elle, a gardé les yeux dans le vide.
Compte rendu d'audience, Anne Le Hénaff pour RTL. La mort d'une octogénaire dans le Nord. Aujourd'hui, son corps a été retrouvé dans sa cave inondée après un malaise et une chute dans l'escalier. Le Nord et le Pas-de-Calais, qui étaient placés en vigilance orange, pluie et inondation.
Votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec une semaine décisive au pire moment pour Éric Zemmour. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h11, la suite de votre journal sur RTL. Il y a eu le doigt d'honneur à Marseille, les déplacements compliqués à Londres, à Genève, la polémique du Bataclan, de tempête en tempête. Éric Zemmour entame aujourd'hui une semaine décisive.
Qui devrait voir le polémiste se muer officiellement en candidat, hein, Marie Mollet?
Oui, déclaration de candidature imminente, hein, d'après son entourage, dans les tout prochains jours. On nous promettait du jamais vu, du spectaculaire. Aux dernières nouvelles, hein, l'équipe d'Éric Zemmour travaille sur une vidéo en ligne, un journal télévisé et un premier grand meeting dimanche. Trois temps et un feuilleton qui devait être l'apothéose de cette pré-campagne. Mais en quelques jours, tout a changé. Sondage en baisse, doigt d'honneur et déplacement raté. Alors maintenant, il s'agit surtout de relancer la machine. Mais en ce moment, rien n'est simple. L'entourage d'Éric Zemmour espérait des ralliements, faire monter des poids lourds sur la scène du Zénith. Mais beaucoup de ses amis, comme Philippe de Villiers ou Robert Ménard, se sont fait porter pâle. Dans le camp Zemmour, on le dit, il a joué au jeu du faux suspense trop longtemps. Dommage, il n'a pas su profiter de son état de grâce pour étoffer l'équipe, verrouiller les soutiens. Un autre élu local s'interroge. Moi, je me demande si Zemmour a compris le sacrifice que représente une élection présidentielle. Et aujourd'hui, j'en doute.
Déclaration imminente, donc on suivra avec vous, Marie Mollet du service politique d'RTL. Après le drame de la semaine dernière dans la Manche, 27 morts dans une tentative de traversée. Les annonces ce soir du gouvernement, des effectifs doublés pour lutter contre les passeurs et un arsenal de sanctions renforcé. Jean Castex écrira demain à Boris Johnson, son homologue britannique, pour lui proposer un accord. Ce sont autant de petits cailloux sur la route du tapis rouge. Avant l'annonce ce soir du Ballon d'Or, quelques signes avant-coureurs du résultat.
Bonsoir Eric Silvestro.
Bonsoir.
Spécialiste foot et costume pour l'occasion. Lionel Messi n'a jamais lésiné pour le Ballon d'Or. Ça semble se confirmer.
Effectivement. L'Argentin a choisi cette année la maison Dior, partenaire du Paris Saint-Germain, pour sa tenue de gala. Je sais, Marion, que sa veste noire à pois blanc en 2012 vous a particulièrement marqué. Mais les fans de Messi n'ont pas oublié non plus sa veste en velours en 2011 ou son costume rouge à paillettes en 2014. Un casse-tête que pourrait ne pas se poser Cristiano Ronaldo. Ni smoking, ni gel pour le Portugais, hors course, dont la rumeur de forfait de dernière minute prend de l'ampleur. C'est le cas également d'une grande partie de la délégation de Chelsea, annoncée conséquente pour célébrer son joueur Jorginho. Vainqueur de la Ligue des Champions et de l'Euro avec l'Italie. Elle a fondu en même temps que son statut de favori et des durcissements des mesures sanitaires. L'Italien devrait se contenter au mieux de la troisième marche du podium. Mais rassurez-vous, Robert Lewandowski et Karim Benzema seront bien au Théâtre du Châtelet pour le début de la cérémonie à 20h30 avec deux trophées bonus ajoutés en dernière minute, celui du meilleur club et du meilleur buteur. Une aubaine ou une pirouette peut-être pour récompenser les 52 buts du Polonais en 2021 et réserver le 65e Ballon d'Or à Messi, évidemment.
Évidemment. Éric Silvestro pour RTL.
Pour lui, c'est repos. Neymar, sorti sur blessure hier contre Saint-Etienne, souffre d'une entorse de la cheville gauche. Il sera indisponible 6 à 8 semaines.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle pour les petits Bordelais qui auront leur sapin de Noël. L'an dernier, vous vous souvenez sans doute, le maire écolo de la ville avait fait polémique en refusant d'installer ce qu'il avait qualifié d'arbre mort pour l'occasion. Eh bien, cet arbre-là sera en verre et en acier, recyclé, confectionné par des artisans locaux. Installation à partir du 11 décembre prochain sur la place Péberlan de Bordeaux, en plein cœur de la ville.
Compromis trouvé. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Louis, qu'est-ce que ça donne?
Alors, ça s'améliore nettement dans la moitié sud. La bonne nouvelle, il y aura quelques brouillards le matin dans le sud-ouest, mais en cours d'après-midi, on aura bien du soleil partout. Alors, au sud d'une ligne, La Rochelle-Grenoble à peu près, du soleil, toujours du vent, hein, près de la Méditerranée, avec du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 60 km/h, sera moins violent qu'aujourd'hui. Puis dans la moitié nord, là, sera totalement l'inverse, avec un ciel encore très nuageux. Alors, plutôt sec en allant vers l'Atlantique, plutôt humide en allant vers le nord et le nord-est, avec encore quelques pluies de l'île de France jusqu'à la frontière belge, et encore un peu de neige, notamment autour de la Franche-Comté, Lorraine, Alsace, quasiment jusqu'en plaine, oui, encore quelques flocons, le tout avec des températures hivernales, fortes gelées le matin, notamment dans le sud, là où le ciel sera dégagé en cours de nuit, puis l'après-midi, 2 à 4, 5 degrés seulement dans les régions du nord-est, 5 à 10 degrés ailleurs, allez, c'est 1 ou 2 degrés de plus qu'aujourd'hui, et un peu plus de 10 degrés près de la Méditerranée.
Merci Louis.
La brigade RTL Soir.
Et à 18h15 maintenant sur RTL, on va s'interroger, essayer aussi d'apporter des réponses aux parents d'élèves qui sont en train de nous écouter. Est-ce que le protocole sanitaire peut tenir à l'école primaire? Désormais, vous le savez, les fermetures de classe ne sont plus systématiques au moindre cas de Covid. En revanche, tous les camarades du petit malade sont alors testés. Ce dispositif fait débat parce que l'épidémie flambe chez les écoliers. On va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Marie Garrier.
Bonsoir.
On en est où justement, tiens, du taux d'incidence, des contaminations chez chez les enfants de 6-10 ans, les écoliers de l'école primaire.
Le taux est de 560 pour 100 000 habitants, un enfant sur 200. C'est deux fois plus que dans la population générale, tout âge confondu. Mais la situation des 6-10 ans est très disparate d'un département à l'autre. On est seulement à 100 pour 100 000 en Lozère et ça grimpe à 1345 dans l'Ardèche, le département voisin qui est le plus touché de France, suivi de près par les Hautes-Pyrénées. En Seine-Saint-Denis, on est à 328 pour 100 000 et de l'autre côté du périphérique à Paris, le taux est désormais de 800 chez les 6-10 ans.
Alors, malgré cette explosion des cas, le ministère de l'Éducation défend son protocole.
Pour une double raison, les élèves testés négatifs peuvent continuer à aller à l'école. C'est moins de jours de classe perdus. Et ensuite, la nouvelle règle doit permettre un meilleur dépistage. Auparavant, quand la classe fermait 7 jours, il était conseillé aux parents de faire tester leur enfant, mais il n'y avait pas d'obligation. Mmh. On ne leur demandait rien au retour en classe. On a pu passer à côté de cas asymptomatiques. Désormais, on teste pour continuer à aller à l'école et ça peut révéler des cas dans les familles.
Alors pourquoi de nombreux scientifiques jugent au contraire ce protocole risqué?
Parce qu'un enfant peut très bien être négatif à l'instant T et aller à l'école, mais il peut très bien aussi être positif le surlendemain. Il faudrait un autre test obligatoire 7 jours après le dernier contact avec le camarade malade. Dans le protocole de l'Éducation nationale, ce test au 7e jour est seulement préconisé. Les scientifiques s'accordent pour dire que le mieux serait un dépistage systématique hebdomadaire. C'est l'idée d'ailleurs en 6e avec la distribution à partir de cette semaine des autotests à faire à la maison une ou deux fois dans la semaine. Mais là encore, c'est une incitation, pas une obligation.
Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup, Marie Guerrier. Dans un instant, tout autre chose dans RTL Soir. Ça va nous faire du bien. Nous allons beaucoup réécouter Joséphine Baker dans les heures à venir. L'artiste aux mille vies entre demain au Panthéon et RTL se mobilise. Par exemple, ce soir, jour J, 20h, Flavie Flamand va revenir sur cette existence incroyable. Demain, 7h40, l'une des filles Baker sera notre invitée sur RTL. Et dans un instant, juste après la pause, nous allons échanger avec Laurent Voulzy. Pourquoi Laurent Voulzy? Parce que le chanteur a longtemps milité pour cette panthéonisation. On le retrouve juste après ça, tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Les amours m'ont payé Paris.
Allez, bonne fin de journée avec RTL. Ce soir, c'est un plaisir de réentendre Joséphine Baker. Une page de l'histoire de France va s'écrire dans 24 heures, tout juste. Demain, fin d'après-midi, l'artiste aux mille vies, chanteuse, danseuse, actrice, résistante, maman au grand cœur, Joséphine Baker entrera au Panthéon. C'est une première pour une femme noire. Emmanuel Macron prendra la parole lors de la cérémonie. Cette panthéonisation, notre invité à militer pour. Bonsoir Laurent Voulzy.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous sur RTL. Vous étiez justement dans le bureau du chef de l'État à l'Élysée avec une délégation du comité Osée-Joséphine lorsque le président a pris sa décision. Vous pouvez nous raconter ce moment, on imagine que c'était très émouvant.
Oui, c'était émouvant, on était plusieurs. Il y avait un des fils de Joséphine Baker, il y avait Pascal Bruckner et puis deux autres personnes. Il nous a demandé à chacun les raisons pour lesquelles on était là pour soutenir cette demande de panthéonisation. Il m'a proposé de parler en dernier. C'est toujours impressionnant de rentrer à l'Élysée et d'être dans le bureau du chef de l'État, quoi, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit c'est oui, c'est ça?
Oui, il l'a dit. Il nous a écoutés tous les cinq et il a dit qu'il était d'accord pour le faire et qu'il trouvait que c'était une très très belle idée, quoi. C'était une belle idée. Bon, moi mes arguments c'était que C'était presque plus personnel. Évidemment, je suis comme tout le monde. On peut avoir de l'admiration pour Joséphine Baker, pour une femme qui vient des États-Unis dans un état où les gens noirs ne comptaient absolument pas, quoi. Et d'une famille très pauvre, etc. Donc, je vais pas dire le détail de son aventure pour partir ensuite dans une troupe de danse et ensuite traverser l'Atlantique. Voilà. Après, alors, tout ça, ça m'a rappelé. Je vais vous dire que ça m'a rappelé ma mère. Parce que ma maman était aux Antilles. Bon, alors il n'y a pas du tout dans les mêmes conditions, mais ouais. Elle a traversé l'Atlantique avec moi dans son ventre. Et ensuite, ma mère a fait de la danse. Et elle avait comme nom Malice Becker. Et elle a élevé ensuite quatre enfants pratiquement toute seule, quoi. Et puis alors surtout quand elle était aux Antilles, Alors évidemment, je fais une comparaison comme ça qui est bien moins importante que la vie de Joséphine Baker, mais quand elle était petite...
C'est intéressant parce qu'on se rend compte finalement, parce que c'est quelqu'un qui va être panthéonisé, qu'on peut avoir un lien presque personnel, affectif et avec Joséphine Baker, et c'est votre cas.
Oui, et alors quand ma mère était enfant, elle avait 12-13 ans, c'était la guerre en Europe, quoi. Ouais. Et elle avait subtilisé les bijoux de sa mère et elle est allée voir un pêcheur qui avait une barque. Et elle lui a dit, est-ce que tu veux pas m'emmener de l'autre côté de l'océan? Comme ça, je vais vendre les bijoux, puis je vais les donner au général de Gaulle pour sauver la France. Alors ça, c'était mignon.
C'est une très belle
alors
image.
Voilà, j'ai raconté ça au chef de l'État. Et alors, il y a une raison aussi personnelle. Puis évidemment, ma mère, évidemment, aimait beaucoup Joséphine Baker. Voilà, donc, moi, il y avait un lien. En plus, il y avait quelque chose d'assez personnel. J'ai toujours été touché par sa vie, évidemment, quoi.
Et c'est vrai que vous faisiez référence à cette période de la Seconde Guerre mondiale. C'est une partie, quelque part, des vies extraordinaires menées par Joséphine Baker. Je voudrais vous faire écouter, tiens, justement, une archive très, très émouvante. C'est une interview de Joséphine Baker, 15 jours seulement avant son décès en 1975, et elle racontait justement ce conflit. Écoutez-la.
J'ai chanté de temps à autre, mais surtout je faisais de la résistance, parce que j'avais qu'une seule chose en tête, aider la France, et j'en étais très fière de pouvoir le faire.
Voilà, vous l'avez dit, Laurent Voulzy, elle a grandi dans l'Amérique pauvre de la ségrégation, elle a connu le succès en France lors des années folles, et là elle risque sa vie pour sa patrie de cœur. C'est un parcours qui est très inspirant finalement aujourd'hui.
C'est très inspirant, c'est très émouvant. Voilà, elle a choisi la France, donc on peut dire qu'elle a risqué sa vie aussi, quoi. Mmh. Si elle s'était fait prendre avec ses partitions, avec des messages cachés à l'intérieur, ça aurait pu lui en cuire, quoi. Donc non, c'est très joli. Puis sa vie de vouloir élever des enfants de toutes les couleurs, plusieurs enfants, et puis ensuite, malheureusement, l'argent s'en va et elle est un peu piégée. En fait, et un de ses fils me disait que, en fait, c'est la princesse Grâce de Monaco qui l'a finalement hébergée avec ses enfants à Monaco quand elle ne pouvait plus rester dans son château, quoi. Mais c'est une jolie vie, hein, très extraordinaire.
Effectivement, vous parliez de ses enfants, 12 enfants, des orphelins du monde entier qui ont grandi dans ce château des Milans en Dordogne. Écoutez un autre extrait. Là aussi, c'est très émouvant de cette interview de 1975.
Les études, c'est qu'il y en a, ils n'aiment pas beaucoup ça, pour quelques-uns, mais enfin, il faut le faire.
Ils ont quel âge?
Eh bien, la toute petite a 10 ans, mon fils est né à 23 ans.
Et vous en avez 12?
12 enfants, sans comptant toutes les autres, vous par exemple, parce que je vous avais adopté, mais vous ne le savez pas.
Voilà, on est un peu tous les enfants de Joséphine Baker avant la panthéonisation. Demain, c'est un bel exemple des valeurs de cette personne et ses valeurs. Aujourd'hui, le combat contre le racisme, pour l'ouverture, ce message d'amour de cette super maman. Est-ce qu'il est important de les rappeler dans une période où le repli sur soi est quelque peu à la mode?
Naturellement, je pense que les valeurs sont belles, quoi. Elle adopte des enfants d'abord et ensuite de toutes les couleurs. Et oui, évidemment, par rapport à aujourd'hui, je trouve que c'est un joli message, quoi. Et la mettre en valeur en ce moment, je trouve que ça tombe pile, quoi. C'est vraiment le bon moment, quoi. Ouais, vraiment.
Laurent Voulzy, pour terminer, je voudrais juste vous poser une question sur la Guadeloupe, parce que c'est votre île d'origine auquel vous êtes très attaché. Vous avez le cœur grenadine, même si, comme vous le dites, vous êtes né à Paris dans le Gris. On sent une forte exaspération là-bas en ce moment. Quel regard vous portez sur ce sentiment d'abandon chez les Guadeloupéens, cette colère qui s'exprime ces derniers jours?
Oui, bien sûr. Alors après, bon, je veux pas trop polémiquer. Oui. Je suis pas apte peut-être à en parler trop, à part du fait que j'ai beaucoup d'amour pour ce pays. Quand il y a la grande violence, c'est toujours extrêmement déplorable. Mmh. Par contre, il y a un sentiment, effectivement, par moment d'abandon. Moi, je suis vraiment, exactement, il y a plusieurs mois, je suis allé en Guadeloupe pour faire un tournage d'émission de télé. Et il n'y a pas d'eau. Vous voulez vous doucher, il n'y a pas d'eau. Il y a des coupures d'eau tout le temps dans toute la Guadeloupe. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, vous allez voir les gens de l'hôtel, par exemple, et vous demandez, et c'est quand l'eau va revenir? Quand? On ne sait pas. Et tout ça parce que il y a eu, je ne sais pas si c'est de l'argent mal employé ou quoi, mais on sait maintenant que les canalisations sont déplorables et donc la moitié de l'eau part dans la terre, quoi. Ça, c'est une chose que j'ai vraiment vécue. Après, il y a d'autres choses que j'ai moins vécues parce que je vis pas tout le temps là-bas. On sait que la vie est chère. Mais en tout cas, l'eau, par exemple, c'est quand même vital. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait des coupures d'eau, mais dans toute la Guadeloupe, à n'importe quelle heure, ça a commencé, je crois. Ça a été une des raisons pour lesquelles les gens sont fâchés, quoi.
C'est un exemple très concret en tout cas. Merci beaucoup,
ah
Laurent
oui.
Boulzy, d'avoir passé un moment avec nous sur RTL ce soir pour nous parler un petit peu de votre île, la Guadeloupe, et également à 24 heures, bien entendu, de l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, cérémonie pour laquelle vous avez milité. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de RTL Soir.
Merci à vous, merci beaucoup.
RTL Soir, Julien Sellier.
Allez, une toute petite pause et ensuite RTL Soir continue avec les dessous de l'actu, les dessous du Ballon d'Or dans un instant, ou pourquoi le système de vote défavorise peut-être Karim Benzema. Et puis laissez-vous tenter dernière, des idées de livres à glisser sous le sapin pour le Papa Noël qui nous écoute peut-être. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Sellier.
RTL 18h31.
Julien Sellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée avec RTL. Marion Calais vous rappelle maintenant les grands titres de l'actualité.
Pas de raison de paniquer face au variant Omicron. Les mots ce soir du président américain Joe Biden qui n'anticipe pas à ce stade de nouvelles restrictions de voyage. Le variant Omicron détecté aujourd'hui en Espagne, au Portugal, mais aussi en Autriche. Un an de prison ferme requis aujourd'hui en appel contre François Fillon dans le procès des soupçons d'emploi fictif de son épouse. 2 ans avec sursis ont été demandés à l'encontre de Pénélope Fillon.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps, Louis, pour demain?
C'est simple, dans la moitié sud, on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Quelques brumes quand même dans le sud-ouest, encore un peu de mistral et de tramontane. Puis dans la moitié nord, ça sera totalement l'inverse, avec encore beaucoup de nuages. Alors plutôt du temps sec entre Normandie et Bretagne, et plutôt de l'humidité au nord de la Seine et dans le nord-est. Alors un peu de pluie et un peu de neige quasiment jusqu'en plaine entre l'Alsace et la Franche-Comté. Les températures, toujours des gelées demain matin et l'après-midi, 2 à 4 ou 5 degrés dans le nord-est, 5 à 9 degrés ailleurs et un peu plus de 10 degrés près de la Méditerranée.
Merci Louis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu, ce soir, les dessous du Ballon d'Or. La prestigieuse récompense sera décernée à 22h42, très précisément ce soir. On est très précis sur les timings. 3 favoris, Lionel Messi, le buteur polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski et notre Karim Benzema national. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Déjà, est-ce que les rumeurs qui attribuent le trophée d'ores et déjà à Lionel Messi sont fondées?
Alors les rumeurs, vous savez, il y a un mois, elles consacraient Robert Lewandowski avec des faux classements publié sur Twitter, alors que France Football, l'organisateur, prend grand soin de ne plus rien éditer en interne, justement pour éviter les fuites. C'est un peu comme en période de mercato, vous savez, avec les rumeurs de transfert. Une fausse info et un démenti, ça fait deux occasions infos de générer un peu de frais, du clic et des followers sur les réseaux sociaux.
Philippe, rappelez-nous, qui vote et comment?
Alors c'est très simple, une liste de 30 noms déjà est établie par France Football, soumise ensuite au vote de 180 journalistes dans 180 pays différents. Chacun établit son classement de 1 à 5, selon des critères qui doivent prendre en compte sur l'année civile. Dans cet ordre, 1, les performances individuelles, 2, les performances collectives, donc le palmarès, 3, la classe, le talent, c'est très subjectif, et le fair play, ça, vous l'évoquiez tout à l'heure, ça peut handicaper Karim Benzema, et 4, enfin, la carrière globale du joueur.
Ce mode de scrutin avec une voix pour un journaliste français et une voix pour un journaliste du Costa Rica, est-ce qu'il favorise la superstar planétaire Lionel Messi?
Alors, un peu moins que le précédent. Souvenez-vous, entre 2010 et 2015, quand les entraîneurs et les capitaines de sélection du monde entier avaient tendance à voter un peu par habitude, sans trop regarder les matchs pour Messi ou Ronaldo. Mais sur une année comme cette édition où le scrutin est très indécis, il est clair que les critères qu'on a évoqués de talent global et de la carrière ont tendance évidemment à bénéficier au buteur argentin.
Les dessous du Ballon d'Or avec Philippe Sanfourche pour RTL. Lionel Messi ou pas, réponse tout à l'heure, 22h42. Merci beaucoup Philippe.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu. Laissez-vous tenter, dernière.
Et vous avez reconnu le générique. Place maintenant à Laissez-vous tenter, dernière, la jolie respiration de la soirée. Et on a plein d'idées de cadeaux pour le Père Noël à moins d'un mois maintenant des fêtes. Laurent Marsic est avec nous ce soir. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Le Papa Noël qui va pouvoir gâter les enfants. Vous êtes venu alors avec un paquet de livres jeunesse ici en studio. J'ai une jolie pile à côté de moi que je m'empresse de prendre. Des livres à glisser sous le sapin?
Des beaux livres jeunesse à glisser sous le sapin. Premier coup de cœur pour un classique de la littérature qui a fait les beaux jours. On en a beaucoup parlé de la plateforme Netflix cette année,
ouais,
avec Omar Sy. C'est Arsène Lupin, texte de Maurice Leblanc, couverture en dos toilé et dorure. Voilà pour l'aspect extérieur,
hein,
il est magnifique. Ce livre est un grand format, 24x32. Les trésors se trouvent évidemment à l'intérieur dans les dessins de Vincent Mallier. C'est un nom bien connu des amateurs de bande dessinée. Il a collaboré avec Régis Loisel et Serge Letendre avant de reprendre le dessin de la célèbre série La quête de l'oiseau du temps. Il laisse ici exploser son talent en mélangeant des dessins façon image d'Épinal et crayonnés en noir et blanc qui viennent s'insérer dans le texte. 9 nouvelles chapitrées, texte intégral, Arsène Lupin, 25 €, c'est aux éditions Margaux.
Il y a des classiques aussi chez Albin Michel.
Le premier, Le vent dans les saules, illustré par Thibaut Prune. Ce livre, au départ, c'est un roman, c'est une vraie parodie animalière de la société et une vraie ode à la campagne anglaise. L'auteur est écossais, il s'appelle Kenneth Graham. Il nous entraîne au bord de la Tamise. Dans la même collection, j'en ai un autre, un grand classique, Princesse Sarah, de Frances Hodgson Burnett, une des pionnières du roman d'apprentissage pour enfants. Son roman qui raconte les mésaventures d'une fille riche devenue très pauvre soudainement a fait pleurer des générations entières avec ce dessin animé, Princesse Sarah. Voilà, je sais pas si ça rappelle des souvenirs. L'album que publie Albin Michel est illustré par Nathalie Novy, une peintre littéraire qui a publié plus de 60 livres pour la jeunesse. Elle travaille au pastel, à l'acrylique ou encore à l'huile. Généralement sur papier, elle s'amuse à saturer les ombres et lumières avec des crayons de couleur.
Et puis votre dernier coup de cœur pour une sombre et terrifiante histoire. C'est celle magnifiquement illustrée ça aussi.
Celle de Barbe Bleue. Charlotte Mundlik et François Roca ont ainsi créé À l'ombre de Barbe Bleue. Dans cette version personnelle, Charlotte Mundlik garde la trame classique et propose des fils qui relient l'enfance imaginée de Barbe Bleue à la vie d'une famille désargentée dont la cadette s'oblige à l'épouser. C'est un livre qui figure d'ailleurs dans le podcast RTL « Lis-moi une histoire » et donc à écouter.
Eh bien, très bien, on écoute, on lit. Ce sont de superbes idées de cadeaux pour le Papa Noël qui nous écoute peut-être en ce moment.
Sûrement.
Voici les conseils de notre lutin à nous, Laurent Marsic, ce soir dans Laissez-vous tenter dernière. Merci Laurent.
Vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Allez, on marque une courte pause et ensuite RTL Soir continue. On va défaire le monde avec le trio Cyprien Sini, Anaïs Bouissou, Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Dans un instant, course contre la montre. Ouais. Vous l'avez compris, face au nouveau variant Omicron, les scientifiques du monde entier tentent de le détecter, d'établir sa carte d'identité. Mais au fait, comment font-ils? Réponse juste après ça.
On défait le monde dans RTL Soir.